Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Cette semaine, en première partie, on va évoquer le Servette FC qui n'en finit plus de gagner. Est-ce que les Genevois vont bien pouvoir s'arrêter ? Dans la deuxième partie, on va évoquer le football vaudois et les petites bisbilles qui se déroulent entre le Jeanne Sport et Yverdon Sport, notamment par presse interposée. Et dans la troisième partie, forcément, l'équipe de Suisse en route vers l'Euro 24. Se qualifier, ce serait déjà bien, mais pour faire quoi en Allemagne ? On va en parler avec Johan Pachet de Blue Sport, André Boschetti et Daniel Bizettini de la rédaction du Sport Center. Bonne écoute des trois quarts d'heure de cette équipe. C'est parti avec Daniel Bizettini. Salut Daniel.
Salut cette équipe.
Salut Johan.
Salut tout le monde.
Et salut André.
Salut.
Bon, on commence comme d'habitude par la partie genevoise de ce podcast avec un Servette FC, 6 victoires de suite, roulé sur balle. Daniel, peut-être la pause internationale n'arrive pas au bon moment en fait.
Ouais, je crois même pas. Ils ont pas mal de blessés entre Antunes, Tsunemoto qui revient, même s'il a été très bon contre balle. Doulin aussi, ça va faire du bien, ça va permettre aussi de souffler. Pas oublier que Servette est engagé sur tous les tableaux, donc l'Europa League, la Coupe de Suisse et le championnat. Donc la pause va leur faire du bien et ils vont la passer en tout cas tranquillement, serein, avec 6 victoires d'affilée en championnat. Et c'est la meilleure équipe de Super League actuellement.
Johan, tu as commenté ce match. Alors bon, tu as ce but marrant pris par Servette, mais après, zéro panique. De toute façon, balle était à 10 et puis… Balle, ça reste le balle de cette année, c'était presque trop facile.
Alors, je ne vais pas dire que c'était trop facile parce que dans les 20 premières minutes jusqu'à l'expulsion, Balle avait le ballon, Balle jouait. C'est ce que voulait d'ailleurs Celestini qui voulait déjà mettre en place un peu ses idées. On l'a entrevu durant le premier quart d'heure. Et après, évidemment, il y a eu le premier goal, ils ont reculé, ils ont subi les vagues servettiennes durant toute la rencontre. Et c'est logique au final que Servette gagne à 11 contre 11. Mais ce n'était pas facile. À 11 contre 11, je me demande bien comment se serait déroulée cette partie.
André, toi, de loin, tu vois ce Servette meilleure équipe de Super League actuellement ?
Non, ça, c'est les résultats, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de Super League, mais elle n'est pas loin. Je trouve aussi, comme Daniel, que la pause vient à un très bon moment, parce que là, ils ont joué une série de matchs impressionnantes à un bon niveau, donc de se reposer maintenant et de préparer le sprint final jusqu'à Noël, c'est idéal. Et puis effectivement, moi je pense que Servette marche maintenant surtout au caractère. Dans le jeu, c'est un petit peu moins bon qu'il y a 15 jours, il me semble, mais mérite aussi au FC Bâle qui m'a bien plu. Cette équipe-là, comme je l'ai vu à Genève dimanche, elle n'aura pas de souci à se faire pour se sauver. Il me semble qu'il y a une nouvelle mentalité avec Fabio, une envie de se battre, une prise de conscience de la précarité de leur situation. Il y a, comme on le dit depuis le début du championnat, il y a des bons joueurs, mais qui ne sont pas très bien entourés par les cadres. Et puis là… pendant en tout cas une mi-temps, chacun a montré qu'il était un vrai leader, qu'il a entraîné ses jeunes et ils sont sur la bonne voie, le FC Bâle. Mais Servette, Servette est tout à fait capable, à mon avis, de décrocher la deuxième place en championnat avec cette équipe, avec cette mentalité.
C'est la question, Johan. Toi, tu vois Servette aller jusqu'où ? 16e, 8e de finale de Conference League et une deuxième place, ça peut être l'objectif maintenant ?
Alors, on va prendre les choses les unes après les autres. Si on prend la Coupe d'Europe, ils ont fait le plus dur en battant le Shérif. Il va falloir maintenant conclure et terminer à cette troisième place. Et après, tout dépendra du tirage au sort. Hein. Tu peux très bien tomber sur une équipe comme Francfort, à ce que j'ai vu, ou une équipe comme
Nordsjælland. Il y a des gros morceaux. Hein.
Ouais,
il y a
des gros morceaux. Ouais. C'est ça. Donc tout dépend du tirage au sort. Et puis, bah, comme l'ont dit les supporters de Toulouse, sur un malentendu, ça peut passer.
Hein. Ouais, donc, tu sais de quoi on parle sur ce sujet.
Voilà, tout à fait.
Daniel, Tu l'attends comment, toi? Parce qu'il y a encore 2 mois et demi, on pensait que Servette était en feu, on pensait à remplacer René Weiler déjà. Comment tu vois cette progression et ce Servette en place et qui gagne?
Il y a eu une évolution, elle ne s'est pas faite unilatéralement, elle s'est faite des deux côtés, à la fois du côté de Weiler et à la fois du côté de l'équipe. Il y a eu un gros changement entre la méthode Weiler et la méthode Geiger. Il a fallu que tout le monde s'y adapte. Et puis, Weiler a aussi fait des compromis, même s'il a gardé sa ligne très ferme, très sévère parfois. Mais il a quand même donné un peu plus de liberté à Konya. Il a fait quelques ajustements. Il a pu récupérer quelques blessés. Tout le monde était un peu inquiet autour de Servette. Et Weiler le premier, il y a quelques mois de ça, durant l'été, parce que le changement était drastique et parce que les fruits de son travail n'arrivaient pas encore. Donc, il a fallu un peu de patience, il a fallu quelques petits ajustements et Servette d'aujourd'hui a cette grande force morale. C'est une équipe qui ne doute pas, qui est capable de prendre un but contre Chaïf Tiraspol, contre le cours du jeu et en marquer deux, même s'ils furent tardifs. Quoi. Mais enfin, en termes d'expected goals, ils auraient pu s'imposer 5-1. Et puis, c'est la même chose contre Bâle. Alors, évidemment, là, c'est biaisé par le fait que Bâle était 10. Mais pour le reste, Servette est vraiment bien dans les clous, bien, bien confiant et va aller vraisemblablement connaître un printemps européen parce que finalement, il faudrait quand même que Chaïf Tiraspol gagne soit contre la Roma, soit contre le Slavia Prague et fasse match nul en plus d'avoir gagné l'autre match contre l'une de ces deux équipes. Sans compter les résultats de Servette. Donc, ça reste un peu compliqué pour le Chaïf Tiraspol de briguer cette troisième place qui semble promise à Servette.
On le rappelle, hein, en Coupe d'Europe, c'est un peu farfelu. Les troisièmes de groupe de Champions ou d'Europa League vont jouer contre le deuxième des groupes d'en dessous, dans des espèces de barrages, alors que les premiers passent en huitième de finale. Donc, ça va rajouter encore des matchs. Et ouais, Servette, ils vont finir avec 50 matchs. Ça va être dingue. André, on a vu hein, dans la carrière de René Weiler, souvent, ça passait ou ça cassait. Il y a des fois où ça passait, ça s'est très bien passé. D'autres fois où ça cassait. Est-ce que ce n'est pas aussi l'intelligence d'un coach, c'est d'avoir su peut-être, avec l'expérience, mettre un peu d'eau dans son vin ou s'adapter plutôt que de vouloir absolument appuyer ses préceptes jusqu'au bout. Je sens qu'il y a eu une petite évolution et un peu d'intelligence là derrière du coach Genevois.
Absolument, et je pense qu'il a connu un énorme succès en début de carrière avec Anderlecht, et puis ensuite c'était plutôt des échecs, donc en y réfléchissant un peu, lui il a dû se poser les bonnes questions, et puis Servette était une occasion magnifique pour lui, est une occasion magnifique, et il a vu les problèmes que ça engendrait, et puis c'est tout à fait logique parce que sa méthode et celle de Geiger sont quand même très différentes, donc il fallait un temps d'adaptation. Puis comme le dit Daniel, peut-être qu'effectivement il l'a fait, les joueurs ont fait un pas dans sa direction et lui aussi a fait un pas dans la direction des joueurs. C'est effectivement l'expérience et l'intelligence qui lui ont fait faire des compromis qui aujourd'hui portent leurs fruits, quoi. Voilà, maintenant je ne suis pas sûr que Servette va passer le printemps en Europe parce que le barrage, c'est en février et puis c'est encore l'hiver. Ça sera vraiment, il faut vraiment avoir de la chance pour tirer un adversaire à sa portée. Et il y aura vraiment possibilité de jouer contre des équipes de très bon niveau. Et Mais bon, on ne sait jamais, mais déjà se qualifier pour ces 16e de finale, c'est un excellent résultat pour Servette. Ouais.
Ouais, parce que Johan, on l'a souvent vu, les équipes, certaines équipes suisses se qualifient pour l'Europe et ensuite prennent un peu par-dessus la jambe pour justement se requalifier pour l'Europe. Donc, une espèce de cercle, un cercle vicieux terrible. Toi, tu as senti aussi cette évolution de Rönnweiler vers un peu plus ses joueurs, quoi.
Oui, alors après, on va pas prendre l'exemple de Lucerne hein, qui aime bien se qualifier pour ensuite se prendre le pied dans le tapis contre une sombre équipe hongroise. Mais non, alors ce qui me plaît, c'est aussi la gestion du groupe chez Rönnweiler parce qu'il arrive également à rendre tout le monde concerné, que ce soit pour le championnat ou pour la Coupe d'Europe. On le voit notamment à travers sa gestion des gardiens. Il y en a un qui joue la Coupe d'Europe et la Coupe de Suisse et l'autre qui joue le championnat. Et c'est très intéressant, on l'a vu encore hier en faisant rentrer ben, des joueurs frais. Donc c'est ça il arrive vraiment à concerner tout le monde et ceux qui n'adhèrent pas à son projet, il les a écartés. Donc il est impliqué, les joueurs sont impliqués et on sent qu'il y a vraiment maintenant désormais une vraie osmose qui a pris au sein du club pour avancer sur tous les tableaux.
Daniel, du coup, le chat noir, c'est plus Guillaume Meno, mais c'est surtout ce terrible, c'est ce jardinier, quoi. Le 0-1, il est pour le jardinier.
Ouais, alors bon, ça n'a jamais été le chat noir, Jérémy, mais c'est vrai qu'il a eu impassablement de problèmes au début pour s'adapter. Il y avait quand même un changement de style de jeu entre le Saint-Gall de Peter Zeidler et puis le Servette de Rönnweiler. Il y a quand même
De position aussi pour lui, de
Pardon?
position, de
Oui, alors
position.
il a dépanné sur le côté droit parfois. Et après, il n'a pas retrouvé effectivement la même place qu'il tenait à Saint-Gall. Mais le fait est que Weiler est sensible à ça. C'est ça la méthode Weiler. Il donne des lignes fortes, directrices. Il demande aux joueurs de faire tous les efforts pour s'adapter à son système de jeu. Et ensuite, il regarde qui fait les efforts ou pas, qui va dans le bon sens, qui s'interroge et se remet en question. Et c'est tout ce qu'a fait Jérémy Guimeneau. C'est ce que n'a pas fait, par exemple, un Fofana, un Touati ou un Rodelin, voire un Fluquet. Et quand il voit que le message ne passe pas, il n'insiste pas, Weiler. Elle est là, sa sévérité. Il peut être très cassant et très sévère, et il fait ses choix. Il dit, OK, si tu ne comprends pas mon système, moi, je n'ai pas à m'efforcer à te le faire comprendre. Et tu ne fais plus partie du groupe. Jérémy Guimeneau, j'en ai parlé longuement après le match où il a marqué 2 buts et où il a impliqué sur les 4 buts pratiquement contre Bâle, me disait que c'était compliqué pour lui. Que oui, il y a parfois de la sévérité, il n'y a pas des mots tendres de Weiler quand il explique les choses, mais ça te pousse à te remettre en question et à faire un travail supplémentaire, différent, une adaptation. Elle est là, la méthode Weiler, et puis. Les joueurs qui la comprennent auront leur chance parce qu'il est toujours resté très présent auprès de Jérémy Guimeneau, même quand il était au fond du bac, et il l'a toujours soutenu.
André, c'est une force quand même de Guimeneau parce qu'il y a le transfert, il y a le retour à la maison, le fait qu'il a joué milieu droit au départ contre des grosses oppositions, de ne pas avoir lâché, c'est un très bon signe et ça montre aussi que ce Servette arrive à incorporer des joueurs comme ça.
Oui, et puis il avait quand même pas mal de pression. Il était très attendu. Sauf erreur, Servette avait déboursé une somme importante pour le chipper à Saint-Gall. C'est peut-être que, je ne sais pas s'il aurait réussi ailleurs, mais le fait que Servette soit son club l'a peut-être forcé ou non, l'a peut-être décidé à s'accrocher un peu plus qu'il l'aurait fait à Lucerne ou ailleurs, quoi. Voilà. Et c'est bien ça, mais chapeau parce que il était contesté partout. Il marquait pas, alors qu'on sait qu'un attaquant, ça vit de but. Il jouait pas à sa place et il a continué continué à gratter, à accrocher. Et puis, il a eu la belle récompense de tous ses efforts dimanche. Mais juste concernant l'Europe, là, c'est-à-dire que les clubs suisses prenaient un peu à la légère, mais je ne pense pas du tout. C'est qu'on voit le niveau faible des clubs suisses. À part IB et puis Bâle à son époque, il n'y a jamais personne qui passe en deuxième semaine, si je peux dire. Ils font le maximum, mais ils tombent contre des adversaires moyens qui leur sont supérieurs. L'exemple type, c'est Saint-Gall, c'est ce Lugano, c'est Lucerne chaque année qui se qualifie. Et puis, ça serait d'autant plus remarquable que Servette, qui ne sont pas en Conference League, qui sont en Europa League, arrive à se qualifier pour les 16e de finale. Donc, chapeau bas vraiment à Servette.
Pour terminer sur le sujet servettien, Johan, il y a quelques mois, même quelques semaines, on parlait ici des difficultés de Servette. Est-ce qu'il faut changer le coach? Est-ce qu'il faut tout changer? Et aujourd'hui, on dit exactement le contraire. Moi, ça m'intéresse parce qu'il y a énormément d'émissions, surtout sur les chaînes françaises, qui parlent tous les jours du foot. Et c'est là qu'on voit que on a le droit aussi de s'inscrire dans le temps long. Et puis, vous avez match après match sur Blue. Nous, on a ce podcast. Mais on voit que rien n'est définitif et puis on peut raconter tout ce qu'on veut, on n'a pas la science infuse non plus et qu'un club peut évoluer favorablement.
Et je crois qu'on était le même quatuor à discuter de cela il y a un mois et demi en disant que René Weiler, c'était plus qu'une question de temps. Et au final, il a enchaîné, il y a eu 6 victoires consécutives. Et il a quand même, on l'a dit, réussi à faire adhérer à son projet, à toute l'équipe. Les supporters derrière ont compris également le message. Et oui, je pense que dans le football aujourd'hui, on doit pouvoir s'inscrire sur le long terme parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Un club ne peut pas construire avec un nouveau coach comme ça. Après, tout dépend également de la situation actuelle du coach, du club. Servette l'avait déjà fait avec Geiger auparavant. Geiger avait connu deux fois en tout cas des débuts de saison très difficiles. Il a jamais été remis en question par sa direction. Après, on prend l'exemple de Bâle. Bâle, tu dois gagner tout de suite. D'où les deux changements d'entraîneur qui sont déjà intervenus.
Oui, ouais, on va nuancer aussi quand même. Weiler, on s'inquiétait de ce que produisait Servette. En termes de résultats, il manquait peu de choses pour que certains matchs nuls se transforment en victoire et puis l'inquiétude aurait été un peu dissipée. Il faut quand même se dire qu'on n'a jamais demandé la tête de Weiler non plus. On s'inquiétait seulement de ce qui était produit.
Mais il n'y avait pas grand-chose qui était produit à ce moment-là. Il y avait de la verticalité.
D'où les inquiétudes. Et les choses ont évolué positivement avec le temps. Effectivement, ça aurait très bien pu aussi perdurer encore quelques semaines et puis être encore plus inquiétant. Donc on fait des arrêts sur image quand on s'intéresse à une équipe et c'est précisément pour ça que la perspective est compliquée parfois.
Oui, puis aussi Geiger. Moi, je me souviens que à son arrivée, Daniel, tu me contredis si j'ai tort, c'est que il avait très très mal commencé en Challenge League l'année de la promotion de Servette et sans un retournement quasi miraculeux. Sauf erreur à Rapperswil ou je sais plus où Servette marque est menée et marque 2 buts dans les arrêts de jeu quasiment si tu te souviens sans ça je sais pas si les dirigeants l'auraient maintenu à sa place. Donc parfois ça tient à rien. Il faut pour un coach comme pour un joueur, il faut avoir un peu de chance à certains moments donnés, mais il faut la mériter et il faut croire que tant Geiger que Weiler ont mérité le petit coup de pouce de la chance à un moment T, quoi.
Mais pour en parler concrètement, par exemple, avec René Weiler, que je connais très bien, puisqu'il était joueur de Servette à l'époque, au milieu des années 90, René lui-même était conscient de la situation compliquée dans laquelle il se trouvait à un moment donné à Servette il y a quelques mois durant l'été. Parce que lui-même, en off, comme ça, quand on discute parfois, me disait « qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Moi, j'ai une ligne, je veux m'y tenir. Maintenant, peut-être que ça suffira pas et peut-être que je ne serai plus l'entraîneur de Servette bientôt. Donc, il n'était pas totalement incohérent par rapport à ça. Et il savait très bien quelles sont les règles du jeu, quelque part. Même si parfois, on peut jouer avec, les extendre un peu et permettre à quelqu'un comme Weiler d'avoir un peu plus de temps.
éloge de la patience, éloge de la lenteur, ça veut aussi dire quart d'heure vaudois. André, qu'est-ce que tu m'as mis comme boxon dans ce foot vaudois avec entre les interviews du président du LS, entre la réponse de l'ancien président Yvert Denois, certains veulent jouer l'Europe, d'autres veulent devenir le club numéro un du canton. Qu'est-ce qui se passe dans le foot vaudois, André? Est-ce qu'on n'aurait pas
Mais
un peu
c'est bien, quoi, je trouve. C'est une émulation. C'est, voilà, deux clubs qui, deux propriétaires de clubs qui se tirent la bourre pour être meilleurs. On ne va pas s'en plaindre. Si ça peut pousser, tirer chacun des deux vers le haut, eh bien, tant mieux. Puis il me semble que les faits donnent raison aux deux propriétaires. Yverdon marche. Je pense que le départ de Schellibaum va être définitivement digéré pendant la pause, les 15 jours de pause de l'équipe nationale. Je crois que Mangiarati est globalement assez apprécié par les joueurs. Il a une approche assez séduisante. Et puis, il ne faut pas oublier que la très très forte majorité des joueurs qui ont vécu cette folle ascension l'année dernière sont ou plus là ou remplaçants. Donc je crois pas que les nouveaux venus, les 17 nouveaux venus cet été ont le même rapport étroit avec le même rapport étroit avec Marco Schellibaum. Donc ils ont tout pour bien faire. Et puis le Lausanne Sport, la même chose. Enfin, depuis un peu plus d'un mois, on voit le LS qu'on espérait voir depuis une année et demie, en fait, hein, et qui concrétise pas encore, à mon avis, suffisamment tout le travail qu'ils font en amont, mais ça vient, ça progresse. Et je dois dire que des derbies comme Yverdon-Lausanne sont particulièrement agréables à suivre, plein de buts, d'occasions, d'erreurs, voilà, qui font partie du jeu. Et tous ceux qui étaient au stade ont redemandé et ont envie de revenir. C'est deux équipes séduisantes à leur manière et qui, à mon avis, ont toutes deux la possibilité d'accrocher le tour final. Et avec un petit peu plus de chance pour le LS que pour Yverdon, mais je parierais volontiers une pièce que une des deux équipes accrochera la sixième place qualificative pour le tour final. Ce qui veut dire que les deux clubs évoluent dans le bon sens.
Johan, comment tu as vécu cette semaine entre des petites déclarations par presse interposée dans la semaine, ensuite un bon derby avec des ultras, avec des buts, avec des petites histoires autour. On a presque cru pour un moment que le canton de Vaud était une terre de foot.
Mais ça l'est, non? Quand on voit le nombre de joueurs qui sont quand même formés dans le canton de Vaud, à travers notamment le Team Vaud. Alors, ça fait du bien au football suisse en général, enfin au football romand en général, d'avoir ces petites rivalités. On avait ça avec Sion et Servette la saison dernière. Maintenant, c'est peut-être. Il y a encore Servette et Lausanne, mais Lausanne et Yverdon, ça agrémente, ça donne du piment. C'est vraiment intéressant. Puis le derby, c'était un très beau derby à suivre. Et comme tu l'as dit, hein, il y a eu des actions de part et d'autre, des buts, scénario fou avec Yverdon qui aurait pu remporter la mise à la dernière minute, comme ça avait déjà été le cas à la Tulière lors de leur premier affrontement. Cette fois, Laetitia était là. Non, moi, ça me plaît, contrairement à ce que dit le cher président de Lausanne qui dit qu'ils n'ont pas forcément le public à Yverdon ou Oslo pour pouvoir avoir du monde, enfin pour pouvoir faire de la publicité pour le football suisse. Non, malgré que c'est un petit stade, il y avait une ambiance particulière samedi soir et puis qui fait plaisir. Et ça met en valeur le football vaudois.
Du bout du lac de Genève, Daniel, comment tu as vécu cette semaine vaudoise avec des déclarations un peu rigolotes, avec et ça passe un petit quelque chose, ça a causé au Café du Commerce, c'était sympa pour nous.
Mais ouais, c'est très bien. Franchement, s'il n'y avait pas de rivalité entre les clubs vaudois, alors ça voudrait dire que le football n'intéresse personne dans le canton de Vaud. Donc encore heureux que justement il y ait des prises de bec, qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait de la concurrence. Que chacun des deux clubs veut devenir le meilleur du canton. Et voilà, maintenant, évidemment, vu de l'extérieur comme ça, on se dit que le projet de Lausanne, qui est plus ancré Vaud, Lausanne, que le projet un peu de trading qui se met en place avec avec ce qui se passe à Yverdon, où on a sacrifié Marco Schellibaum sur l'autel de ses choix parce qu'il ne faisait pas jouer assez les nouveaux joueurs. Et ben là, on peut être inquiet peut-être, parce que est-ce que c'est ça l'avenir du foot suisse, de trading façon façon Yverdon, façon SLO dans une moindre mesure,
façon balle,
façon balle dans une plus large mesure, et on voit les résultats une fois que tout le monde est parti à la fin de la belle saison dernière en Europe en tout cas. Et ben on peut forcément s'inquiéter. Moi, je crois pas que le trading soit une solution pour le football suisse, et que c'est au contraire la mort du football suisse, et que c'est un grand danger pour la formation, qui est le seul chemin que le football suisse doit suivre pour pouvoir être pérenne, produire ses propres joueurs et pas en prendre des jeunes un peu à gauche, à droite, en oubliant la formation locale. C'est exactement ce qui s'est passé à Bâle. Tous les jeunes issus du centre de formation, bien sûr, il y a Usé qui a joué un peu contre Servette, mais sinon, où sont les Shakiri, Chaka, Sommer et compagnie qui ont été sortis par le centre de formation de Bâle? Ils n'existent plus, tout simplement.
Ils sont arrivés maintenant.
Ben, entre autres, ou ailleurs, ils partent à 15 ans ailleurs parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de débouchés, étant donné que la méthode des Gaines, c'est de prendre des jeunes dans des pays étrangers pour leur donner à eux la place.
Bon, hier, il y avait deux jeunes joueurs du centre de formation de Bâle, Abdoulaou et
ouais,
Junior Z.
Mais ouais. La formation baloise, elle est à des années-lumière de ce qu'elle a été.
Ce qu'elle était, on est d'accord, ça, tout à fait. Ouais.
André, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qu'a dit M. Di Pietro Antonio dans les colonnes de 24 heures, où il s'offusquait un peu du scepticisme autour de ces nouveaux investisseurs. Est-ce que c'est la faute d'Yverdon qui a mal communiqué, ou est-ce qu'on a le droit d'être sceptique quand des Américains viennent à Yverdon qu'on parle d'Yverdon aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un petit milieu à trouver au milieu de tout ça?
Non, mais bien sûr, mais Mario, il défend sa vente. Il ne va pas critiquer les personnes à qui il a bien vendu son club. Autrement, il se tape avec le marteau sur ses propres doigts. Non. Maintenant, le projet yverdonois, je pense que c'est compliqué de le juger après 5 mois. Il faut se laisser un laps de temps de au moins une année, voire 2 ans, avant de bien se rendre compte de ce que veulent faire les dirigeants américains. Maintenant, eux, ils l'ont dit dès le début. Ils sont honnêtes. C'est que, OK, ils veulent devenir une des forces du championnat de Suisse, mais ils veulent aussi essayer de récupérer de l'argent en valorisant, en développant de bons jeunes joueurs. Et puis, si au Lausanne Sport, avec le Team Vaux, on peut espérer sortir quand même un ou deux bons joueurs pour la Super League chaque année, à Yverdon, c'est pas possible. Donc, s'ils veulent faire du trading, récupérer un peu de l'argent investi, ils sont obligés de passer par des jeunes talents étrangers. Maintenant, j'espère aussi qu'ils vont investir de l'argent dans la formation dans le Nord Vaudois, et qu'ils réussiront à former des jeunes tout aussi bons que le Team Vaux, Servette ou IB, qui sont capables, eux, de jouer en Super League et puis ensuite de partir vers l'étranger. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le rêve de tout jeune qui sort des jeunes de Servette, du Team Vaux, c'est pas d'utiliser son club formateur comme un tremplin, comme le font les étrangers. Eux, ils ont envie, s'ils ont un peu de talent, de partir voir ailleurs, gagner plus d'argent, avoir un championnat plus compétitif que le championnat suisse. C'est tous les mêmes. Donc le trading, à mon avis, il est presque inéluctable, comme pour les clubs français d'ailleurs.
Daniel, je vois que tu n'es pas d'accord, mais si on t'avait dit il y a 10 ans en arrière que Yverdon Sport ferait du trading avec un patron américain, tu aurais rigolé quand même.
Ouais, j'aurais eu un peu de peine à y croire, effectivement, mais je regarde au-delà de ça, quoi. Je veux dire, être en Super League, c'est une fin en soi pour Yverdon, et c'est très bien. Avec Marco Schellibaum, cette équipe était arrivée en Super League, justement, à la 8e place. Il a été débarqué à ce moment-là parce qu'il ne fait pas jouer les nouveaux joueurs qui ont été pris, la pléiade de nouveaux joueurs qui ont été pris.
Mais non, il les fait tous jouer, à part le gardien. où tu peux te poser la question, et quoique Mangiarati fait jouer Kevin Martin, autrement, il y a une très très forte majorité des étrangers débarqués cet été qui jouent. Non, là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la grande majorité des joueurs suisses qui sont montés avec Yverdon l'année passée, sincèrement, n'a pas le niveau de la Super League. Cette promotion, on ne le répétera jamais assez, c'était un miracle de Marco Schellibaum. Voilà. À partir de là, tu es obligé, si tu veux te maintenir, de...
Il était huitième avec Marco Schellibaum quand même.
Pardon ?
Ils étaient quand même huitièmes avec Marco Schellibaum.
Non, mais moi, je ne parle pas du changement d'entraîneur. C'est pas parce qu'il ne faisait pas jouer les nouveaux qu'il était débarqué.
Il y a eu des choix qui ont déplu aux nouveaux dirigeants. C'est une évidence. Il a été...
Non, c'est des choix de jeu, façon de jouer. Absolument. Tous les nouveaux jouent. Tous les nouveaux jouent. Là, tu ne peux pas dire le contraire. Tu regardes la composition de l'équipe, à part Kevin Martin, à part Le Pogam. Et puis Sautier maintenant, Maloula joue, et puis Sautier qui, voilà, changement tactique, eh bien il estime que en 3-4-3, eh bien le 4 du milieu de terrain côté droit, c'est plus pour un joueur un peu plus offensif que pour Sautier, qui est un vrai latéral de métier, ce que n'est pas tout à fait Le Pogam. Le Pogam, je pense qu'il est plus à l'aise que Sautier dans ce rôle de milieu extérieur qui doit faire tout le couloir. Voilà, c'est pour des principes de jeu. C'est pas du tout parce qu'il faisait pas jouer tous les nouveaux. Il y en a 17 de nouveaux.
Alors, pour les principes de jeu de Marco qui étaient pourtant, qui fonctionnaient, puisque Yverdon avait très bien commencé son championnat. Ouais. Pour les principes de jeu, des propriétaires décident de changer les choses. C'est quand même un peu problématique.
Ben oui, mais c'est eux qui ont mis l'argent, c'est eux qui décident.
C'est tout. Entraîneur, carrément, alors on s'embête plus alors.
Mais non, ils ont pris un entraîneur qui correspondait à leur philosophie, c'est-à-dire plus de possession, un jeu un peu plus construit depuis derrière, moins à l'énergie que celui que préconisait Schellibaum. Je regrette, Dieu sait si je défends Marco, il a fait quelque chose d'exceptionnel pendant une année et demie à Yverdon, mais qui paye décide.
Je suis juste curieux de voir
mais, ce que ça va donner. Mais moi aussi, je ne dis pas
avec Mangiarati, et si Yverdon ne va pas, au final, amèrement regretter son choix.
Mais peut-être, mais je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis qu'ils payent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
Bon, on a encore 3 minutes dans ce quart d'heure vaudois. Je vais te lancer, toi, Johan, qui est en train de compter les coups depuis ton fauteuil.
Qui gagne.
On a vu Yverdon tout changer et ça marche à peu près. Le slow, par contre, n'a pas changé grand-chose, et c'était déjà limite en Challenge League. Et on voit là, le slow est quand même le candidat numéro 1 à la relégation.
On voit les limites de ne pas changer, en fait, de rester dans cette continuité. Évidemment, il n'y a pas eu autant de changements dans l'effectif que pour Yverdon. On fait confiance à passablement de mêmes joueurs que pour la promotion. C'est une bonne équipe, joueuse, d'accord, en Challenge League. Meilleure attaque de Challenge League, mais là, moins bonne attaque de Super League. Et... Breza, il s'évertue à jouer, il est dans ses idées, il a pas envie forcément de se remettre en question. Il parle souvent qu'ils font trop de cadeaux, on l'a encore vu ce week-end, et il y a peut-être une autre approche à faire, c'est-à-dire vraiment revoir la copie défensive. C'est ce qu'a fait Frick à l'époque avec le FC Vaduz, où il les avait presque sauvés, et c'est ce qu'il a fait à nouveau, ce même Frick, avec le FC Lucerne. Non, ils n'étaient pas nés au promu, Lucerne, mais j'entends quand on monte d'un échelon entre la Super League et la Challenge League, il y a deux mondes d'écart. Lausanne était bâti plus ou moins pour la Super League, ils sont renforcés comme il le fallait. Yverdon, ils ont changé les 4-5e de l'équipe, alors qu'à Yverdon, au Oslo, pardon, on est encore sur cette même dynamique de la Challenge League au niveau de l'effectif et on n'a pas pris la pleine mesure du niveau de la Super League.
André, on a vu hier, quand le plan est en place, quand tout est parfait, bah ça fait 0-1 grâce au père, mais dès qu'il y a un petit manque de réussite, une petite couille dans le potager, ça explose.
Mais oui, mais écoute, Je pense pas que c'est une question d'approche tactique, de jouer plus défensif ou pas. C'est une question de joueurs. Il faut pas se leurrer. Ils sont montés de façon presque miraculeuse l'année passée à travers un barrage. Ils traversaient une période euphorique au moment du barrage. Je te rappelle qu'au mois de mars, ils étaient largués avec 9 points de retard sur la troisième place. Ils ont eu un moment de grâce. Et puis, cette année, tu vois les limites individuelles de la plupart des joueurs. C'est-à-dire que malheureusement, pour la majorité d'entre eux, ils ne sont pas au niveau de la Super League. C'est-à-dire que sur certaines séquences au cours de chaque match, ils sont bien. Mais à un moment donné, ils manquent de constance. Ils doivent presque surjouer pour être au niveau de leurs adversaires. Et puis, le plus souvent, ça finit par craquer. Et puis après, à force d'encaisser des défaites, et ben, les joueurs lâchent un peu dans leur tête. Et puis, eux-mêmes, à un certain moment donné du match, n'y croient plus. Et j'ai vraiment, malheureusement, beaucoup, beaucoup de peine à imaginer le Sloss rester en Super League, éviter cette 12e place et rester en Super League une année de plus encore.
Daniel, un petit mot sur le slow.
C'est compliqué, effectivement, il y a un déficit de qualité par rapport au reste des contingents de Super League. Alors, on le savait, maintenant, il va falloir travailler, il y a quand même un problème d'assises défensives, on peut regarder les choses comme on veut, mais le SLO a déjà encaissé 30 buts en 13 matchs, on ne peut pas voyager en Super League avec plus de 2 buts par match encaissés. Ça veut dire qu'on doit en marquer 3 pour gagner à chaque fois. C'est vraiment compliqué. Et puis prendre 5 buts contre Guetze, Guetze n'est pas très fort, hein, et pourtant marque 5 buts au SLO, ça raconte bien ce déficit d'assises défensives qu'il va bien falloir régler. Alors est-ce que c'est possible? Peut-être que Anthony Breza devra renier un peu sur ses principes de jeu pour pas bétonner, mais en tout cas solidifier un peu. Le jeu défensif du slow sans aucune garantie que cela puisse suffire.
Et surtout le Guetze d'hier. Alors j'ai vu le match, mais c'était mais affreux. Affreux. Il ne mettait pas un pied devant l'autre, il ratait une passe à 3 mètres. C'était un Guetze misérable qui arrive en planter 5 au slow. Quoi. Voilà.
Sur ces bonnes paroles, on passe. Est-ce que c'est plus réjouissant? Je ne sais pas, mais à l'équipe de Suisse, Daniel, on a déjà une bonne nouvelle. C'est Kosovo qui a battu Israël. Et ça ouvre les portes à l'équipe de Suisse pour vivre, pour ne pas trembler, quoi. Il faut le faire mercredi.
Et tu te rends compte, Robin, on en est là. On en est là à être suspendu à cette victoire du Kosovo face à Israël pour se dire « Ouf, ça va être moins compliqué ». Franchement, c'est inquiétant d'en arriver là pour l'équipe de Suisse de Murat Yakin. Mais oui, effectivement, cette victoire 1-0 du Kosovo face à Israël permet à la Suisse de se qualifier directement pour l'Euro déjà mercredi soir avec une victoire sur Israël. Et il n'y a rien d'autre que la Suisse doit viser, une victoire mercredi soir contre Israël, histoire de donner un petit peu de calme à tous les remous qui ne manqueront pas de continuer, parce que je tiens à préciser quand même que se qualifier pour l'Euro 2024 dans le groupe le plus faible de l'histoire, ça ne doit pas être une fin en soi, et que la question de Murat Yakin ne va pas être réglée parce qu'il s'est qualifié pour l'Euro 2024. Il y a un gros problème autour du sélectionneur, il faudra bien en parler.
Avant de parler de Murat Yakin, justement, parce que je pense qu'on va finir encore ce soir sur le sujet, j'aimerais juste parler d'un truc, André et Johan. On a l'impression que l'UEFA a voulu se débarrasser vite fait de ses matchs. La Suisse joue 3 matchs en quelques jours. Israël doit en jouer 4 en 9 jours. Johan, ouais. C'est quand même pas terrible pour l'équipe et les compétitions, non?
Alors non, du tout, parce qu'en même temps, ils n'avaient pas tant d'autres choix, l'UEFA, parce que les programmer en mars, ce n'était pas possible, sachant qu'Israël avait la possibilité de terminer troisième et devait disputer donc les barrages grâce à la Ligue des Nations. Donc là, au milieu, à moins que tu trouves 2 dates au mois de janvier pour faire jouer Kosovo, Israël et Israël-Andorre, je vois pas comment ils auraient pu faire ça. Évidemment, ça pose des problèmes d'équité. On l'a vu hier, les clubs avaient l'obligation de, je crois, 2 joueurs maximum par club. S'il y avait un Kosovar, enfin plusieurs Kosovars dans un même club, ils avaient seulement 2 qui pouvaient être libérés pour la rencontre d'hier. Typiquement, Ramani, il a joué avec Napoli hier après-midi. Alors là, quand on parle d'équité, évidemment, c'est un problème, sachant que le Kosovo également est encore en liste pour arracher une éventuelle deuxième place qui serait miraculeuse. Mais là n'est pas le problème.
André, on a vu le joueur du Slow Albanagini était dans le groupe, du coup, il n'était pas avec le Slow qui jouait le même jour. C'est un peu n'importe quoi.
Ouais, peut-être que le Slow aurait gagné 6-5. Alors, c'est ça que tu veux m'entendre dire.
Clairement.
Non, mais c'est une situation tellement exceptionnelle, dramatique, qui a engendré ce rebrassage du calendrier que, voilà, moi, je pense qu'il y a des choses tellement plus importantes, quoi, qui se sont passées, quoi. Ils font comme ils peuvent. Je ne sais pas avec quel cœur les Israéliens jouent ces matchs, mais non, il n'y a rien à dire sur ce calendrier. Il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus importantes et voilà, quoi.
Et rappelons aussi qu'Israël a pu jouer alors que la Palestine, elle, ne peut pas jouer tout court. Hein. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, passons qu'à Yakin qui va beaucoup me faire bien plaisir. Alors, c'est ce que je vous ai envoyé tout à l'heure comme programme. Hein. Alors, la Suisse va aller à l'Euro. Oui, on va y aller. Cassez-vous pas les noix, on va y aller. Hein. On va y aller mercredi, comme ça, on va pas s'énerver. Mais aller à l'Euro pour faire quoi, Daniel? Parce que, alors maintenant, pas de souci. Hein. Sommer, Evil avec l'Inter. Manuel Akanji, triple buteur en 3 matchs avec Manchester City. La statistique incroyable, Granit Xhaka, c'est le joueur qui fait le plus de passes dans le tir adverse des 7 grands championnats. Okafor, il peut même jouer à l'aile gauche à Milan, pas de souci. Il y a du matos pour faire quelque chose et il faut que cette génération, Daniel, sorte par la grande porte à l'Euro 2021.
Ben, évidemment, mais en même temps, quand on regarde les performances de tous ces joueurs-là qui sont assez exceptionnels en club, eh ben, on constate qu'avec l'équipe de Suisse, on est à des années-lumière de ce qu'ils sont capables de faire en club. Donc, j'ai fait un papier comme ça il n'y a pas si longtemps. À qui la faute? Ben, vous suivez mon regard. il y a quand même une immense défiance de tous les cadres de l'équipe de Suisse. Et quand je dis tous les cadres, c'est tous les cadres envers Murat Yakin, ses idées, ses méthodes, ses entraînements. Donc, quand Granit Xhaka vient me dire après le match 2-2 au Kosovo que les entraînements sont merdiques, entre guillemets, et que c'est comme ça qu'on joue parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne, ben il dit une vérité, mais c'est pas la sienne. C'est celle de tout le groupe. Ils en ont parlé toute la semaine à Ried de ces entraînements entre eux. Eux, ils ont l'habitude d'avoir des entraîneurs et des entraînements extrêmement intenses dans tous leurs clubs. Ils arrivent en équipe de Suisse. Bah, ma foi, c'est pas du tout à la hauteur. Alors, évidemment, il pointe du doigt Murat Yakin, il jette un pavé dans la mare, mais contrairement à ce qu'a voulu faire croire l'ASF, qui ferme les yeux sur tout ça depuis très longtemps, eh bien, c'est pas seulement le fait de Granit Xhaka qui était soi-disant sous le coup de l'émotion et qu'une discussion avec Yakin a permis de tout régler. Non, absolument pas. C'était le fait de tous les leaders de l'équipe de Suisse. Donc, aller à l'Euro, c'est pas une fin en soi. Il va falloir sérieusement se poser la question de savoir si la Suisse peut aller à l'Euro avec Murat Yakin à sa tête.
Alors, Johan, question pour aller encore un peu plus loin. Est-ce que finir cette incroyable génération, peut-être qu'il y en a qui continueront un peu jusqu'en 26, hein, mais est-ce que cette génération doit terminer avec Yakin comme coach? Ce ne serait pas gâché?
Alors, moi, je suis de l'avis de Daniel là-dessus. Hein. Je crois qu'on est d'accord. Pour moi, Murat Yakin n'est pas ou n'est plus la bonne personne pour diriger cette équipe, vu qu'il y a une totale défiance envers le sélectionneur. Et ce serait vraiment un gâchis envers cette génération qui, certes, a fait un quart de finale à l'Euro 21. Mais il y a un potentiel pour faire tellement plus lorsqu'on voit ce qu'ont réalisé de ce même euro les Danois, quand on voit ce que réalisent les Croates lors des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. Ok, ils ont aussi des générations exceptionnelles. Peut-être sur le papier, c'est peut-être légèrement meilleur, mais la Suisse a de quoi faire, a de quoi rivaliser avec les grosses stations. Ils l'ont prouvé déjà à l'Euro contre la France, d'une part, mais également en Ligue des Nations, que ce soit contre l'Allemagne, l'Espagne ou d'autres nations. Mais il faut avoir la bonne personne à la tête et je ne suis pas certain que Mourad Chakine le soit.
André, changer de coach entre une qualification entre guillemets réussie, disons comptablement, hein, parce que pas forcément sur le pré, mais changer de sélectionneur entre des qualifs et une grande compétition, ça n'arrive pas souvent.
Non, mais ça peut arriver. Moi, en tant que spectateur, ce qui m'importe, c'est d'avoir du plaisir. Et puis, je dois dire que j'en ai aucun en voyant la Suisse de Mourad Yakin, alors que j'en avais beaucoup en voyant celle de Petkovic. Et changer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut changer. Maintenant, peut-être que la chance de l'équipe de Suisse, c'est d'avoir au printemps, sauf erreur, ils vont jouer la Ligue des Nations. Ils ont quoi comme genre de match au printemps?
Alors, c'est une excellente question. On va
Ouais.
directement aller sur.
Non, c'est des matchs amicaux au printemps. La Ligue des
Il n'y
Nations,
a pas de Ligue
ça
des
sera en septembre.
Nations, tout
Non.
ça?
Non, non, ça
Ah,
c'est
ben c'est
pas.
dommage
Ouais.
parce que si tu joues en Ligue A, en Ligue des Nations, et puis tu te prends, admettons, trois branlées au printemps, peut-être que ça remet la tête à l'envers des dirigeants, puis ils se rendent compte qu'il faut changer quelque
Après,
chose maintenant.
il faut pas oublier que Yakin a le contrat qui est automatiquement renouvelé en cas de qualification.
Oui,
Il est
d'accord, mais
renouvelé
quand
jusqu'à
il
la
est
fin de l'euro.
renouvelé jusqu'en 2026 ou il est renouvelé jusqu'à la fin de l'euro?
Fin de l'euro, hein. Jusqu'à la
Oui,
fin
fin
de
de l'euro.
l'euro. Jusqu'à la fin
Bon,
de l'euro.
écoute, si tu t'en sépares au printemps, ça coûte pas trop cher, non? Ça coûte moins cher que de faire piètre figure à l'euro. Parce que, comme vous, je me dis, mais avec cette équipe, avec cet état d'esprit, ce qui a souvent fait la force de cette équipe, c'était un formidable état d'esprit, une solidarité de tous les instants qui permettait au groupe de se sublimer lors des grands rendez-vous. Et puis là, on n'a plus ça. Il n'y a plus de joie de jouer, il n'y a plus rien. Donc là, tu es parti pour aller à l'Euro, pour faire peut-être, si tout va bien, trois matchs en points, sortir la queue entre les jambes et puis commencer le procès de Yakin avec quelques mois de retard. Voilà, c'est dommage, quoi. Mais
Bon, au pire, je pense que l'ASF, ils ont deux, trois réserves, hein, parce que quand je vois une vingtaine de préparateurs pour les M21, 17 personnes qui suivent l'équipe de Suisse féminine, je pense que si on a 13 ou respectivement 17, on ne va pas voir trop la différence. Hein. Mais Daniel, toi, tu penses, connaissant l'ASF, connaissant l'inertie de ce truc, qu'ils envisagent dans un coin, dans un 10% de coin de la tête, ce serait éventuellement possible de changer quelque chose, ou alors on se dit, on sait très bien comment fonctionnent ces gens-là, on va se planter à l'euro avec Yakin, puis voilà.
Ben, j'ose espérer qu'ils envisagent en tout cas la possibilité d'un geste fort, parce que franchement, sinon, ce serait dramatique. Mais en même temps, je suis habité par la crainte, hein, parce que cet ASF-là, quand il y a 6 à 1 contre le Portugal en huitième de finale, vient épauler Yakin. Yakin dit, du haut de ses certitudes, que sa tactique de défense à 3 qu'il a fomenté quelques heures avant le coup d'envoi, sans la préparer, sans avertir le groupe, n'est absolument pas en cause, bien sûr, que de toute façon la Suisse aurait perdu face à ce fantastique Portugal. Ok, très bien. Bah, il se trouve qu'à côté de lui, il y avait Dominique Blanc à Doha et puis Pierluigi Tammy. Les deux ont dit non, non, mais absolument pas de problème de tactique. Nous sommes sur la même ligne que notre entraîneur. Au bout d'un moment, la cécité. Ben, il faut qu'elle arrête, hein. Faut arrêter, hein. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité. Peut-être que maintenant, avec les déclarations à répétition de Granit Xhaka et certaines discussions, j'ose espérer, en quatre yeux, de Tammy avec quelques joueurs, ils vont peut-être comprendre le message. C'est pas possible de continuer comme ça, dans un climat serein et surtout productif pour l'équipe de Suisse, avec Mourad Yakin à sa tête.
Alors, pour terminer, parce qu'on arrive déjà au bout, ça va vite, surtout quand on parle de Mourad Yakin, j'aimerais vous demander un nom de celui que vous voudriez qu'il soit l'entraîneur de l'équipe de Suisse à l'Euro. Et en deuxième, quel entraîneur vous pensez qui sera le sélectionneur de l'équipe de Suisse à l'Euro? Alors moi, je vais dire, j'aimerais bien que ce soit Petkovic qui revienne pour faire un petit coup sur 6 mois. Tout va bien, mais je pense quand même que Yakim ne partira jamais avant un euro. Et je ne vois pas la SF bouger. Yohan, à ton avis?
Alors, je pense comme toi qu'il va pas, il va jamais bouger, hein, Yakin. Il sera là jusqu'à l'élimination au premier tour de l'Euro. Et moi, je l'avais déjà dit, mais Peter Seidler, ça me plairait parce qu'on jouerait du foot offensif et ce serait un peu du football rock'n'roll.
André?
Ouais, alors je suis d'accord avec vous que Yakin sera à la tête de l'équipe de Suisse à l'Euro. Petkovic, Dieu sait si j'étais content quand il est arrivé. Je trouve qu'il a fait un super boulot, mais j'aime pas trop les soupes réchauffées. Et donc, je te dirais que peut-être Urs Fischer, s'il se fait. Mais là, tu me prends au dépourvu, hein.
Ça te fait tout.
Alors, je dirais Urs Fischer, s'il se fait débarquer à Berlin, pourquoi pas, mais c'est une réflexion d'exactement 15 secondes.
C'est bien pas mal, c'est plus que Yakin au moment de faire ses entraînements. Hein. Daniel?
Alors, dans l'absolu, même si c'est difficilement envisageable, moi j'aimerais bien que ce soit Lucien Favre. Maintenant, Lucien a toujours dit qu'il ne prendrait pas l'équipe de Suisse. En même temps, ça fait un moment qu'il n'a plus d'équipe à entraîner. Et à la limite, je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être en tout cas. J'aimerais bien voir une équipe de Suisse façonnée un petit peu par Lucien Favre, précisément cette équipe-là. Les relations qu'il a avec Granit Xhaka sont excellentes. C'est lui qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là quand il était à Gladbach. Eh bien, ce serait une bonne chose. Maintenant, qui entraînera la Suisse à l'Euro? Ben, malheureusement, je pense que ce sera Yakin, ouais.